Donc, Vayikra el Moshe, Vaidaber Hashem, il a appelé Moshe, Vaidaber Hashem Elav, Hashem lui a parlé, mais Ohel Moed, les morts. À partir du Ohel Moed, les morts, en disant, ça veut dire, ce que je te dis, tu dois le répercuter. Bon, ce qu'Hachem dit à Moshe, c'est pour qu'il le répercute au Bnei Israël. Alors, on va regarder un petit peu les intros. Regardez l'intro. D'abord, l'intro du Hamek Davar. Il dit comme ça. Zeh sefer anikra Torah Kohanim. Ce sefer, il s'appelle Torah Kohanim, c'est-à-dire la loi des Kohanim. Vaïkra, c'est son nom parce que la paracha commence par Vaïkra, premier mot, mais Razal l'appelle Torah Kohanim. Il y a un commentaire standard qui s'appelle qui est un Midrash Halakha qui s'appelle Torah Kohanim aussi. C'est bien sûr que c'est la loi des Kohanim, puisqu'on va parler des Korbanot, essentiellement dans la première partie en tout cas. Ki rabu bo panim yoter mishar chelki haTorah. Il y a beaucoup d'explications, plus qu'il n'y en a sur ce nom-là dans les autres parties de la Torah. C'est marqué dans la Maseret Sanhedrin, à la fin de Sanhedrin. C'est Menashe aya shone chamishim vechamisha panim betorat kohanim. Menashe, c'est un des rois idolâtres. Lui, il lisait 55 panim, 55 manières de lire Torah de Kohanim. Achav, un autre roi idolâtre, bien connu, Shmonim v'chamisha, 85. Yerovam, le plus idolâtre, Mea u'shlosha, 103. Il dit, Vaf al gav she adigdukim she batora mitzad eze yitur o shinui ben parasha le parasha. Ashave beinyana. Asher noten le, nitan le farech le dagdek, shavin bechol asfarim. Bien qu'en vérité, si on regarde exactement, des fois des petits changements d'une lettre ou etc., qui ein davar rek bekol haTorah kula, il n'y a jamais rien d'inutile dans la Torah. Donc, kol makom rabu panim beyichud beze asefer yoter. Il y a les aspects différents, en particulier dans ce sefer là plus que dans les autres. Et pourquoi? De behemet yesh arbe drashot vehalachot shelo lamdu chazal besifra machmat adiyuk. Il y a beaucoup de choses que les Chachamim n'ont pas à déduire du texte, ou de comparaison, ou de regarder l'étymologie, etc., dans le verset. Et là, Mishum, chez Akabalot, Baalpe, Bezea Sefer, ou l'Europe. Alors, il dit qu'en vérité, la tradition orale, sur les sujets qui sont traités dans Sefer Vaikra, elle est énorme. Bon, il y avait des tas de traditions orales qu'ils ont reçues de Moshe Rabbeinu, qui ne sont pas écrites dans la Torah. Il y en a énormément. Et les drashot, on a voulu, à partir du texte, retrouver un point d'appui pour ces traditions qui étaient orales. Bon, très souvent, par exemple, dans la Gemara, des fois, on dit, voilà, je te dis quelque chose, et la Gemara demande, Minaïn, d'où tu sais? Mais je sais parce que. Et on apporte un verset. Mais c'est donc pas du verset, ça sort pas directement du verset, sinon il aurait pas posé la question, d'où tu sais? Ça veut dire qu'on avait une tradition orale, et il dit, sur quoi tu peux l'appuyer dans le texte pour dire que. Parce que d'une certaine manière, notre Emouna, c'est que le texte de la Torah contient tout en lui. Simplement, il faut le travailler pour montrer comment il contient ça et ça et ça. Si vous voulez, c'est quelque chose que vous connaissez probablement. Les Sfardim, ils ont l'habitude à Shavuot de lire l'après-midi ce qu'on appelle les Hazarot de Rav Sadia Gaon. Rav Sadia Gaon, il a fait un travail gigantesque. Il a pris les 613 mitzvot, et il a pris les 10 paroles, les 10 commandements, et il a montré comment chacune des 613 mitzvot est rattachable à une des 10 paroles. D'accord ? Donc, il a fondé non seulement les mitzvot sur des psukim, mais il a montré qu'en réalité, c'était déjà aussi rattachable au texte des 10 paroles. C'est ce qu'on fait souvent. On a une tradition et on la rattache, on montre comment elle se déduit. Mais c'est pas que si personne n'a lu le verset et se dit « Ah, ça veut dire ça ». C'est parce qu'on avait une tradition qui nous disait « Il faut que ce soit comme ça » qu'on a montré comment on peut le déduire de ce verset-là. C'est à l'envers, n'est-ce pas ? C'est pas que le verset parle et il te dit cette chose-là. Puisqu'il y a beaucoup plus d'halakhot que partout ailleurs, ici dans le Sefer Vayikra, tous ces détails halakhiques, etc. Ve'en kabbalah she'ena merumezet be'mikra. Et il n'y a pas de tradition qui n'est pas un remez, une allusion en tout cas, dans le texte de la Torah. Mishumachi digdeku upirshu be'pen echad ve'emidu bo arbe kabbalot. Donc, c'est pour ça qu'ils ont expliqué les choses d'une certaine manière. Pen, ça veut dire panim, un certain panim, un certain visage. Et ça a résolu, on a pu expliquer tant et tant d'alahot, de tradition. Puis après, on l'a lu d'une autre manière, on a réussi à expliquer d'autres, etc. C'est pour ça qu'il faut lire tellement de manières pour arriver à rendre compte de toutes les traditions. Aussi fou od bepen acher lamed sheyesh remez le od kabbalot elu vechen arbe. Aval im lo ayu alachot mekubalot lo ayu motziim midiyuk hamikra alachot. Ce que je vous ai dit, si on n'avait pas la tradition, on n'aurait jamais dit que dans tel et tel verset, de tel et tel verset, il sort cette tradition-là. Et c'est pour ça que mishumachi meshune negaim me'aolot. Kedita bechagiga sof perek alef, negaim mikra merubei alachot muatot, oalot mikra muat ve alachot merubot. C'est pour ça qu'il y a une grande différence. Par exemple, negaim, c'est-à-dire toutes les lois concernant la fameuse lèpre, les fameuses lèpres qui y a sur la peau, sur les vêtements ou sur les maisons, d'accord, qui viennent sur la peau à cause du lachonara, les autres à cause de la radinerie, etc. Et il y a des tas de dinim pour savoir quelle sorte de blanc. La peau, elle devient blanche, alors qu'est-ce que c'est? C'est un blanc crème? Est-ce que c'est un blanc comme la chaux? Est-ce que c'est un blanc comme ceci, comme le lait, Oui? Allô? Oui? Allô? Oui? Ah, vous voulez écouter ça? D'accord, oui. D'accord. Je ne le savais pas. Bon, vous êtes là? C'est bon. Donc, on dit, bien que, effectivement, ah oui, je vous disais, dans les gaïms, par exemple, il y a toutes sortes de couleurs. Et le poil, il est pas comme ça par rapport à la couleur, par rapport à la peau, etc. Ça, c'est impur, ça, c'est pur, ça, etc. Et là, la Gemara dans Chagiga, elle dit que Negaïm, c'est Mikra Merubé. Il y a beaucoup de versets qui parlent. C'est vrai que dans Tazria Metzora, là-bas, on va, il y a énormément de versets qui racontent que c'est ceci, c'est comme ça, c'est cette lèpre-là, cette, etc. Et il y a relativement peu d'Halachot, relativement. Et dans Ohalot, Ohalot, c'est autre chose. C'est les tentes. C'est le din. Il y a un din spécial qui est que dans Toumat Met, par exemple, si on est sous le même toit qu'un cadavre, on devient impur. Et là, il y a toutes sortes de dinim à ce sujet-là, où c'est tout au contraire. Là-bas, j'ai très peu de versets et beaucoup de dinim. Des fois, j'ai beaucoup de versets pour accrocher relativement peu d'alachot, et des fois, j'ai peu de versets pour accrocher beaucoup d'alachot. C'est comme ça. Afalpi shal echad natan shtei parshiyot elu, bien que sur par exemple Negaïm il y a deux parshiyot, Tazria et Metzora, elles parlent toutes les deux de ces questions d'impureté du type lèpre. Aval efresh eno mitzad Torah shebichtav ela mitzad Torah shebalpe. Mais la différence, elle vient non pas du texte, la différence du texte. Il y a qui est une différence dans le texte, mais ce qui est fondamental, c'est que c'est la Torah orale. Chez dans Aholot, Ayu Kabbalot Merubot mi Benegaim. Il y avait beaucoup plus de traditions concernant les dinim dans Aholot, dans l'histoire d'impureté, parce qu'on est sous le même toit qu'un cadavre, disons, et que de traditions concernant les impuretés dues à la lèpre, liées au Lashonara ou à la radinerie. Izalken asu ramazim yoter de parchat haolot, mais parchat negaim. Donc on a dû faire beaucoup plus de travail dans l'un que dans l'autre. Vrem tire chez Atana de Sifri Zuta et Misarbe Drashot Yoter mi be Sifri Shelfaneinu. Et tu verras effectivement que dans le Sifri Zuta, c'est des textes de Halachot, et là-bas ils ont fait beaucoup plus de Drashot que dans le Midrash Halachot qui s'appelle Sifri sur notre texte à nous. Ve'en beneyem machloket ve'dinim. Mais il n'y a pas de différence entre les deux concernant les dinim. Sauf que Ze Atana et Misa Kabbalot Ayuduot Lahem Shiem Rumas Bamikra Yoter Mi Ze Atana. Parce que ce Tana, il était plus inventif pour arriver à rattacher les traditions à des psukim que l'autre. Que l'autre témoin, c'est une question d'inventivité, si on peut parler comme ça. Maintenant, aleinu la'asot et divrei Torah. Ce qu'on veut dire, nous devons fabriquer les divrei Torah. Chez Pirusho, le'avin, ça veut dire quoi, fabriquer les Torah? Le'avin, laskil, il faut comprendre, il faut se représenter. Bediuk, lashon amikra, la'amido al ha'kabbalot. Donc, il faut comprendre complètement le verset, voir toute la richesse qu'il y a dans ce verset, pour que ça serve d'allusion à des traditions. Alors, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi que les Rahamim, ils ont vu des choses en regardant de plus près les versets, ils ont tiré des lois qu'on n'avait pas encore pas de tradition. Il y a les deux phénomènes. Il y a les traditions qu'on rattache à les versets, et puis il y a ce qui sort du verset, qui, quand on regarde le verset avec toute sa richesse, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, on appellerait ça un hypertexte. Ça veut dire, vous avez le texte, et bien, en faisant des travaux sur chacun des mots de ce verset, vous arrivez à lui faire dire énormément de choses. Tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est inclus dans le texte. C'est en ça que la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire de ce point de vue-là. Bon, alors il donne des exemples, mais on ne va pas les regarder maintenant, on les verra en son temps. Ça, c'est donc l'introduction du Hemekdava. Il y a une autre introduction que je voulais voir un petit peu avec vous. C'est l'introduction du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma aussi, c'était un rave, un très grand rave, qui était dans la ville de Dvinsk, en Russie. Et c'est quelqu'un qui a eu, sur le plan personnel, il a eu une seule fille, et je crois qu'il l'a perdue. Bon, il a eu beaucoup. Bon, il n'était pas très populaire comme rave. Mais aujourd'hui, il a un livre qui s'appelle « Or sa mère » sur le Rambam, qui est un incontournable. Il n'y a pas de shiurim dans les yeshivot où on ne le cite pas quasiment tous les jours. Et c'est faire la Meshech Chochma qui est absolument génial, qui est son commentaire sur la Torah. C'est incroyable. Alors lui, dans sa Hagdama, il pose des choses. Les Kadmonim, c'est-à-dire les anciens, ils avaient des chitotes différentes en ce qui concerne la raison des sacrifices. Alors, vous savez probablement, le Moré Nevouchim, donc le Rambam, il dit que Oula Chik Leva Adam et Avodazara. Les korbanot, c'est fait pour éloigner le cœur de l'homme de la Avodazara, de l'idolâtrie. Alors, on pourrait s'étonner, parce qu'on pourrait dire, c'est le contraire. Si vous voulez, il y a une énorme parenté entre, d'ailleurs, les deux gmarotes, la gmara qui parle des corbanotes et la gmara qui parle d'Avodazara, les interdits de l'idolâtrie, les idolâtres, ils ont aussi un autel, les autels, ils font aussi des sacrifices, ils ont aussi toutes sortes de rituels, etc. Ils se prosternent aussi, nous aussi on se prosterne, il y a beaucoup. Alors, le Rambam, il veut dire, je crois, la chose suivante. Le Rambam, il pense qu'on ne pouvait pas demander au Bnei Israël d'adorer, si vous voulez, Hachem, sans aucun geste, sans aucun rite. C'était pas possible. Dans leur tête, c'était pas possible. Peut-être déjà. Et donc, c'est une espèce de concession à l'esprit du temps. C'est un peu, il faut être le Rambam pour oser le dire, mais c'est une forme de concession à l'esprit du temps. Alors, comment est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, vous allez apporter les corbanotes. Donc, mais je vais vous dire exactement ce que vous allez faire. Et si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis de faire, alors c'est Avodazara. D'accord? C'est Avodazara, ça veut dire, c'est le même mot, n'est-ce pas? Avoda, c'est le service du Beth Amikdash. Et Avodazara, c'est le même mot, Avoda, mais Zara, ça veut dire étranger. Ça ne veut pas dire faux, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de mot pour dire ça. On dit simplement, c'est un travail étranger. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour nous. Et c'est très grave, évidemment, c'est l'idolâtrie. Et on l'est toujours avec les corbanotes, on l'est toujours, et tout ce qui concerne le Beth Amikdash, on l'est sur le fil du rasoir. D'accord? C'est là, tu t'éloignes un tout petit peu, t'es dans le précipice, t'es dans l'idolâtrie. Mais il y avait besoin, comme il dit ici, l'archik. Il fallait éloigner les gens dans la Avodah Zarah, et une façon de les éloigner, c'est leur dire, vous pouvez faire ça, mais exactement dans telle et telle limite. Plutôt que leur dire, je vous interdis complètement. Alors, il n'y a que la possibilité de transgresser. Quand on interdit complètement, il reste la transgression. Ça, c'est ce que dit le Moré Nevouchim, le Rambam. Mais Ramban, sur les premiers psukim ici, et toute son école, qui nous disent qu'il ou le karev kol akochot à Olamot. Il dit, c'est une façon de rassembler toutes les forces du monde. Il s'agit de maîtriser, de diriger le monde, en quelque sorte. Vouinyan, il dit, c'est comme l'électricité spirituelle, quoi, une espèce de... Asher bepeulot à Kohen, dans les actions du Kohen, asa gvoot ba Olamot, Olamot Shonim Kayadoua. Les actes du Kohen, qui sont des actes qui sont faits à l'intérieur du Mishkan, d'accord, ce sont des actes qui ont un impact sur le monde entier, sur les mondes entiers. Veula yesh le achia, on peut peut-être trancher et dire ki korbanot bama emrak le achik avodazara mil babot im Israël. Lachen tziva ki yaktiru le shem shamayim. Velochen korbanot bet amigdash em avadai le kareva olamot ulchaber dodim. ומצאתי אחרי זה בדברי רלב"ג בתועליותיו במלאכים על כחד רק בבמות הוא מזווח ומקטיר שאף שהיו מותרות אין בהם כוונה עצמית. מקור לזה עד אתנן ריש פרק פרת חטאת אין ריח ניחוח בבמה קטנה הרי דקודשי במה אינם לריח ניחוח. ובזה יובן הדאמר רב נתן הנודר כאילו בנה במה והמקיים כאילו הקריב עליו קורבן. היינו שבמה הוא לגדור עצמו מעבודה זרה, אבל בזמן שבית המקדש קיים הוא עושה רשע במה שגודר עצמו מעבודה זרה בהדבונה במה, אלא השם בהיכל קודשו יכול להקריב במקדש. וכן הנודר, הוא רוצה לגדור עצמו בנדר, אבל הוא מוסיף פשע, שכבר ידרתו התורה ועזרותיה המאירות עיניים, בדוק. Alors, il dit que, ça va continuer, je vous explique ce qu'il dit ici. Il dit d'ailleurs qu'il a trouvé un appui dans le commentaire du Ralbag. Le Ralbag, c'est Lévi ben Gershon, c'est ce qu'en français on appelle Gersonide. C'est un des Rishonim. C'est... il dit la chose suivante. Vous savez, il y avait... On a construit le Mishkan. Et les gens... Il y avait deux sortes d'autres... Il y avait des petits hôtels domestiques. Ça s'appelle Bama Ktana. Les hôtels domestiques, à la maison, les gens, s'ils avaient envie, ils apportaient un korban. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle Bama Gdola. Bama Gdola, c'était à ce moment-là des hôtels géants qui servaient à toute la collectivité. C'était le même, c'était plus domestique, plus pas chacun pour soi, mais pour la collectivité. Et puis après, il y a eu le Beit HaMikdash à Yerushalayim. Et quand on a instauré le Beit HaMikdash à Yerushalayim, quand on l'a inauguré, on n'a plus eu le droit d'apporter des korbanot sur les bamot, sur les hôtels domestiques ou les autres. Et jusque-là, il y avait une tolérance. Mais on disait justement... que c'était permis, mais c'était pas que c'était bien, c'était encore plus une tolérance. Alors lui veut dire qu'on peut faire une espèce d'explication qui contient à la fois le Ramban et le Rambam. Il veut dire que, en vérité, on peut dire comme ça. Les corbanotes qu'on amène sur les bamotes, qu'on amenait sur les hôtels, ou les hauts lieux, donc pas le Beit, ni le Mishkan, ni le Beit HaMikdash, ça c'était effectivement pour éloigner de l'Avodah Zarah. Puisque les gens, les Goïm faisaient ces choses-là, et que, bon, pour les Bnei Israël, la Torah a jugé que c'était trop difficile de leur interdire complètement, alors on l'a toléré. Mais ça c'était le temps que les gens avancent, le temps passe, et à ce moment-là, quand on a construit le Beit HaMikdash, c'est devenu interdit. Et donc, on va dire comme ça. Tant que c'était les Bamot, alors on peut dire que c'est comme le Rambam. D'accord ? Ça veut dire... mais là, on exige... Il faut que vous apportiez... Tout ce que vous faites, il faut le faire expressément en disant le Shem Shamayim. Je le fais pour Hashem, parce que ça ressemblait énormément à ce que faisait l'Egoïm. Donc, il fallait dire, je le fais pour Hashem. Quand il y a eu le Beit HaMikdash, donc c'est sûrement comme le dit le Ramban, pour ramasser toutes les forces du monde, etc., qu'on faisait les korbanot. Et à ce moment-là, il y a même c'est Stama Lishman, ça veut dire, même si on dit rien, c'est Lishma, ça fonctionne. On n'a pas besoin de le dire expressément puisqu'on est allé dans la résidence divine. Quand tu vas dans l'apport des corbanotes dans cette résidence divine, tu n'as pas besoin de dire je le fais pour Hachem puisque c'est à cet endroit-là. Mais comme, par contre, quand tu le fais chez toi ou bien quand tu le fais dans des hauts lieux qui ressemblent beaucoup à ce que font les goïms, alors il faut dire je le fais le Shem Shamaim parce que sinon on pourrait s'imaginer que tu es en train de faire la même chose que les goïms. Et la source, c'est, on dit, il y a une. On verra ça un peu dans la suite. Il y a dans les korbanotes, il y a une idée qu'on veut que le korban y soit, comme on dit, le reach nichoach. Reach nichoach, ça veut dire, c'est une odeur agréable, disons. En odeur agréable. Et un korban qui n'est pas en odeur agréable, il n'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas agréé, en réalité, par Hachem. Hachem n'en veut pas. Alors, ce qu'on disait, c'est que dans les bamotes, il n'y a pas de reach nichoach. Les bamot k'talot, en tout cas, dans les hôtels domestiques, c'est pas vraiment en bonne odeur pour Hachem. C'est Hachem, il... Donc, c'est ça qu'on veut dire ici. Et c'est pour ça qu'il y a un texte très intéressant qui concerne les vœux. Alors, dans la Torah, il y a une paracha qui décrit, enfin, des parchotes qui décrivent des engagements qui sont pris en vœu. Quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un neder. Un neder, c'est un vœu. Et c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un fait un vœu, disons, il fait un vœu de... il veut dire, je m'interdis les pommes vertes. C'est-à-dire que pour une pomme verte, pour moi, ce sera comme la viande d'un corban que je n'ai pas le droit de manger. On prend l'interdit... qui est dit dans la Torah, qui fait que celui qui n'est pas Cohen ne peut pas manger la viande des corbanotes. Et quand on fait un éder, d'accord, c'est je considère que les pommes vertes, par exemple, dira celui qui fait le néder, pour lui, il dira, pour moi, les pommes vertes, c'est comme de la viande interdite, la viande de corban qui est interdite. Et alors on dit... La Gemara, elle dit comme ça. Bien que dans la Torah, il y ait cette paracha, donc on traite ça, mais la Gemara, elle dit, c'est un certain Rav Nathan qui dit ça dans Masechet Nedarim, il dit, un noder, celui qui fait un vœu, c'est qu'il ou bana bama. C'est comme s'il avait construit un hôtel à eu, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait sa petite religion, ça veut dire. Et celui qui accomplit le vœu qu'il a fait, c'est qu'il lui écrive à l'Av Corban, comme s'il n'avait pas, non seulement il a construit un hôtel, mais il a approché un Corban sur cet hôtel. C'est-à-dire, l'Abama, l'hôtel en question, c'est quelqu'un qui veut se mettre des limites. Par exemple, le type, il interdit les... Il considère les pommes vertes comme quelque chose d'interdit. Donc, c'est quelqu'un qui il sait qu'il a une tendance à en manger trop ou je ne sais pas quoi. Et bon, alors, pour se mettre une barrière, il s'est interdit ces choses-là. Et l'Abama, c'était aussi, on s'interdit la Zara en se permettant cette chose-là, en faisant une Bama pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Alors, je le fais cette chose-là qui est permise. Mais quand le Beth Amikdash a été construit, alors celui qui est noder, il fait quelque chose de... Il fait quasiment de l'Avodah Zara, quoi, parce qu'on lui dit, mais pourquoi tu as besoin de t'interdire encore une chose? La Torah ne t'a pas interdit à cette chose. Normalement, la Torah, elle a prévu de t'interdire toutes les choses qu'il est bon que tu t'interdises pour réussir à t'approcher d'Hachem. Oui, il faut peut-être... donner, ne pas se tous permettre. Bon, c'est pas que obligatoirement, il n'y a pas obligatoirement une ascèse nécessaire pour s'approcher d'Hachem, mais il y a peut-être quand même des barrières à mettre. Et donc, la Torah, elle te dit, mais moi je t'ai mis assez de barrières, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Si tu as besoin encore de rajouter, c'est tout. Il y en a assez dans la Torah. Et donc si tu le fais, c'est comme un Avodah Zara, ça veut dire que c'est un travail étranger, c'est... je ne t'ai pas demandé de faire ça. En fait. Et il dit comme ça, « Ubeze nit galeli sod bama chez bema chez Chidesh Rabbeinu Chaim Cohen dans la Masechet Megillah, le man d'amar lo kitcha l'artid lavo. Il kol makom bema asur l'akriv aïn sham. משום דען שכנסת הגדולה בטלינו לעבול הזרה, ליצחה דעבול הזרה. אם כן, תו אין צורך להקריב בבמה לגדור העם מעבודה זרה, ואין חפץ לשם בבקר וצון בבמה, שאינם לריח נכוח, רק בשביל להגדירם שלא יקריבו לעבודה זרה, אז אם כן... כי בטלו יצחה דעבודה זרה, אז אסור להקריב בבמה. ותשפיר מה שמעתי הגמרא תנאי, דלמאן דאמר שהיו מקריבים אף על פי שאין בית, אין בית בתחילת הבניין, סבר ואז היה אסור להקריב בבמה. Donc il dit ici, j'ai compris la chose suivante. J'ai compris... Vous savez qu'à la fin du premier Beth Amikdash, une des raisons pour lesquelles Beth Amikdash a été détruit, c'est peut-être la fondamentale, c'est qu'il y avait Avodah Zara. Les Bnei Israël, ils pratiquaient l'idolâtrie. Souvent, ils pratiquaient l'idolâtrie à côté de... Ils allaient aussi au Beth Amikdash, mais ils allaient aussi au temple idolâtre. C'est l'histoire d'Eliyahu HaNavi qui leur a dit, mais il faut que vous décidiez, vous ne pouvez pas avoir un pied dans chaque camp, je veux dire. Et à la fin du... quand le Beth Amikdash a été détruit, alors les Chachamim, ils ont dit, ils ont réfléchi, ils se sont dit, on n'y arrivera pas. On n'arrive pas visiblement à régler le problème de l'idolâtrie. Donc ils ont demandé, ils ont prié Hachem de... supprimer la virulence de l'idolâtrie. C'est pas qu'il supprimait complètement l'idolâtrie, mais supprimer la virulence de l'idolâtrie. Alors, la virulence, vous savez ce que c'est? C'est, vous connaissez l'histoire de Menaché? Je commence, si vous connaissez, vous m'arrêtez. À la fin de Maseret Sanhedrin, il y a une discussion dans la Gemara sur qui a chelek le'olam haba. Qui a ou qui n'a pas une part au monde à venir. Alors ils ont discuté, et puis à un moment donné, ils ont dit, à demain, quelqu'un a dit, demain on va s'occuper des rois. Quels sont les rois qui ont part au monde à venir, quels sont les rois qui n'ont pas part au monde à venir. Et celui qui a dit ça, il s'est exprimé, il a dit, demain on va s'occuper des petits copains. Il voulait dire les rois. Copains, ils voulaient dire les rois idolâtres. Et pendant la nuit, le roi Menaché, qui était un des grands idolâtres, lui est apparu en rêve. Il lui a dit, dis-moi, qui te permet de me traiter de ton petit copain, qui tu es pour me traiter comme ça? Il dit, mais qu'est-ce que tu... Et il lui dit, mais tu sais rien, tu es un ignorant, de quoi tu te permets, pourquoi tu... Il lui a dit... Il était un peu effrayé, alors, dans tout ça, ça se passe dans son rêve. Alors il dit, il dit, est-ce que tu sais seulement où on coupe le pain, quand on fait motzi? Alors il a dit, non seulement je ne sais pas où on coupe le pain, mais je ne sais même pas qu'il y avait un endroit où il fallait couper le pain. Il a dit, tu ne sais même pas où il faut couper le pain, et tu me traites de ton petit copain? Alors, ce rabbassi lui a dit, écoute, enseigne-moi, et demain, au Beth Amidrash, je rapporterai ton enseignement en ton nom. Alors, il lui a expliqué comment on coupe le pain. On coupe le pain à la partie qui est la plus cuite. Disons, pour nous qui avons des pains qui sont comme ça allongés, alors on coupe le pain, non pas au milieu, mais on coupe le pain à la partie qui est la plus cuite. Certains disent que la partie qui cuit en premier. Bon, eux, ils avaient des pains différents, parce qu'eux, ils avaient des pains qui étaient collés à la... Ils avaient un four comme ça, et le pain était collé au four, donc La question, c'est qu'est-ce qui cuit d'abord la partie collée au mur, quoi, du four, ou bien la partie, ou l'inverse, quoi, l'autre côté. En tout cas, c'est par là qu'il faut commencer, il faut couper le pain. Bon, alors le lendemain, il a enseigné ça. Mais ils ont continué le dialogue, et puis il lui a dit, mais si vous étiez tellement savant, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous étiez capable de donner du sens, de dire qu'on coupe le pain d'une certaine manière, c'est donner du sens aux actes les plus triviaux de la vie. Ça donne du sens. Bon, il y a des gens qui coupent n'importe où, on coupe le pain, bon, on coupe le pain, on rompt le pain, mais bon. Dire qu'il faut couper de cet endroit-là et pas un autre endroit, pas commencer par un autre endroit, c'est que vous êtes capable de donner du sens aux actes courants de la vie. Comment ça se fait que vous avez pratiqué l'idolâtrie, qui est une bêtise? Alors Menaché lui a dit, tu sais, nous, on avait des longs manteaux qui traînaient quasiment presque par terre. Évidemment, quand on voulait marcher, on était un peu entravé par ces manteaux. Mais on était content, parce que ça nous permettait de ne pas arriver très vite au temple idolâtre. C'est-à-dire, l'idolâtrie, c'était un must. C'était la mode. Être moderne, ça voulait dire être idolâtre. Et on ne pouvait pas résister. Alors, notre petite résistance, c'était de gagner quelques secondes ou quelques minutes, parce qu'on ne pouvait pas marcher vite à cause des grands manteaux. On était vachement contents. Les manteaux nous aidaient à ne pas y aller vite. Toi, si tu avais vécu à cette époque-là, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite. Ça, c'était ça, les idolâtres, en quelque sorte. Donc, je veux dire la chose que, bon, alors les Chachamim, ça c'était la virulence du Yetzara d'Avodah Zara. Ils ont prié pour que ça disparaisse. Il reste bien aujourd'hui de l'idolâtrie, mais c'est plus aussi virulent. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'idolâtrie aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. C'est quand même assez virulent. Les gens font beaucoup de choses pour l'argent. C'est assez virulent. C'est difficile de prendre de la distance et ne pas être entraîné par l'appât du gain, etc. Ouais, non, je ne sais pas. Et, en tout cas, il n'y a plus. La virulence telle qu'il l'a décrite, ça n'existe plus. Alors, puisqu'il n'y a plus ça, alors l'idolâtrie n'est plus tellement attrayante. Donc, il n'y a pas de raison de permettre les bamotes. Il n'y a pas de raison de permettre les hôtels domestiques et autres qui n'ont été permis parce qu'il fallait faire pièce, en quelque sorte, à l'attrait de l'idolâtrie. Non, celui qui, aujourd'hui, à partir du moment où on a détruit la virulence, on a supprimé la virulence de l'idolâtrie, et qui continue d'approcher un corban sur une bama, c'est directement de l'Avodah Zara. Donc c'est vraiment idolâtrie. Du coup, il fait lui-même de l'idolâtrie à ce moment-là. Il se met une barrière pour pas tomber dans l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie déjà ici. Donc c'est pour ça que ce que dit la Gemara, elle dit, bien que on n'a pas encore complètement le Beth Amikdash reconstruit, etc., celui qui à ce moment-là aurait approché sur une bama, c'est un idolâtre. Et il dit, avec ça, on peut expliquer les psukim dans Teilim, c'est marqué qu'il lo tarpotz zevach v'etna ola lo tirtze. Tu désires pas les korbanot et que je donne une ola, tu n'en veux pas. Alors, Pirouche, Bebama, Shein Korbanot le Reach Nichoach, dans une Bama, les Korbanot ne sont pas en odeur agréable, c'est ce que nous enseignons comme ça. Et Tiva Birtsoncha et Tzion, Tivne Chomot Yerushalayim, veuille bien reconstruire les murailles d'Yerushalayim, etc., le Bet HaMikdash. Et à ce moment-là, tu désireras que Zifrei Tzedek, Olav et Kalil, à ce moment-là, tu vas désirer qu'on apporte des korbanot au Bet HaMikdash, quand tu l'auras reconstruit. Az, yé etzem a korbanot, chafetz, aboré, behemet. À ce moment-là, les korbanot seront désirés par Hachem, vraiment, quand il aura reconstruit Yerushalayim, etc. Et nyan nerbal, le kareva olamot, puisque là, c'est ce qui va nous approcher, qu'on va rapprocher tous les mondes d'Hachem, etc. Et donc tous les gestes vont être très, très importants. Bon, c'est ça qu'il veut dire ici comme marloquette entre le Rambam et le Ramban, et lui il essaye de faire une espèce de compromis entre les deux en disant que ça dépend les Bamot ou bien le Bet HaMikdash. Bien, alors maintenant on va regarder le début du texte. Alors vous voyez bien que le Vaïkra, dont tout le monde connaît, il est écrit avec un tout petit Aleph. Quand il n'est pas écrit, c'est pas écrit Vaïkra normalement, mais c'est écrit Vaïkra Aleph. Alors regardez Rashi. Rashi dit Vaïkra el Moshe. Alors il dit d'abord il y a un appel à Moshe. Alors, comme vous remarquez, c'est pas marqué Vaïkra Hashem el Moshe. C'est marqué « Vayikra el Moshe ». Il a appelé Moshe, puis seulement après « Vaïdaber Hachem ». Alors lui, il dit « Vayikra el Moshe, le chol dibrot ou le chol amirot ». Chaque fois qu'Hachem a parlé à Moshe, que ce soit « Vaïdaber » ou bien « Vayomer », peu importe, ou le chol tzivuyim, ou toutes les ordres qu'il a donnés, Skadma Kriya. Il y a toujours eu, avant qu'Hachem ne parle à Moshe, il l'appelle. Rashi pense que chaque fois, ce ne sera pas répété dans la Torah, il y a trois endroits dans la Torah où ce sera répété, on va y venir, mais en vérité, d'après Rashi, chaque fois qu'Hachem, c'est marqué dans le Pasuk, Vaïdaber Hachem el Moshe, en réalité, il y avait toujours, avant qu'il lui parle, Vaïkra el Moshe. Quand je vois où il parlait, Moshe, éventuellement des fois, Moshe, et après il lui parle. Il dit, qu'est-ce que c'est, cet appel? Il dit, c'est une kriya, lachon kriba. C'est une expression d'amour. C'est par amour pour lui. Il l'appelle, je t'appelle. C'est lachon chez Malachia Sharet Mishtam Shimbo. C'est un lachon. Cette chose-là, c'est ce que font les Malachi Hasharet, les anges de service. On voit quoi? On voit, par exemple, dans la Tfila, on dit, le Kara Ze El Ze, Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Un appelle l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire appelle l'autre? Chacun appelle l'autre pour lui montrer. Ils vont dire tous ensemble qu'Hachem est saint, mais chacun interpelle l'autre, l'appelle. Et c'est un lachon de chiba, c'est un lachon d'amour. Ils veulent fabriquer une unité dans l'amour. Comme il dit, Vekara ze el ze. Alors, aval le nevié aumot, akum, nigla lehem belachon aray, vetuma. Mais quand Hachem s'adresse, semble-t-il, à des prophètes idolâtres, alors il n'y a pas d'appel, et du coup, comme on voit chez Bilam, c'est marqué Vayakar Elohim, enfin Elohim El Bilam. Elohim a appelé Bilam, et c'est écrit Yud Kuf Resh, sans Aleph. Il ne l'a pas appelé. Et Yakar, ça veut dire Mikré. C'est du hasard. On va lui donner la dimension de hasard. Je t'appelle, mais c'est pas du tout qu'on a une relation suivie. Je t'appelle parce que j'ai quelque chose à te dire, mais c'est tout. C'est pas du tout la résultante d'une relation suivie entre nous. Alors normalement, ça aurait dû être écrit Vaïkra avec un aleph en grandeur. Pourquoi il est petit? C'est pour dire que Moshe Rabbeinu, comme c'est Moshe Rabbeinu qui écrit, il n'a pas voulu mettre avec une grande lettre ce privilège d'être appelé par Hachem. Donc il l'a mis parce qu'Hachem lui a dit de le mettre, mais il l'a mis en petit parce que il a voulu montrer que lui ne se considérait pas comme à la hauteur, si vous voulez. Il ne voulait pas que ça apparaisse comme une chose naturelle, comme c'est clair que... Alors, Rashi dit que voilà, c'est une marque d'amour. Alors, le petit-fils de Rashi, le Rashbam, il dit pourquoi c'est marqué Vaïkra el Moshe? Le fils est katab le malab sauf à Sefer. À la fin du Sefer Shemot, il est écrit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas entrer dans le Ohel Moed parce que la présence divine remplissait complètement le Ohel Moed et il ne pouvait pas entrer. C'est la raison pour laquelle maintenant, Lo yachol Moshe lavo el Ohel Moed, le kar karaou akadosh bochou mitoch Ohel Moed. C'est la raison pour laquelle maintenant Hachem l'appelle, il dit viens. Comme tu peux pas entrer parce que c'est plein, mais moi je t'appelle, alors viens, tu vas pouvoir entrer puisque je te dis d'entrer. Donc il a complètement, il dit ça de façon plate, d'accord. Il n'est pas d'accord avec le grand-père, Rashi c'est son grand-père. Il commente plus simplement, sans midrashim, parce que ce que dit Rashi c'est construit sur des midrashim. Mais lui il s'arrête pas sur le petit aleph ni rien du tout. Il dit, mais c'est ça le chat du verset, c'est que Hachem l'a appelé parce qu'il ne pouvait pas entrer. Alors il a fallu qu'il l'appelle. Bien. Alors, quand même, on qui s'y ramène, le fait qu'il l'a appelé Moshe. Alors il dit ici que les sources midrashiques sont divisées sur la question de savoir si l'appel à Moshe se renouvela à chaque ordre proclamé par Hachem, comme je vous ai dit, comme Rashi semble le dire comme ça, ou s'il n'eut lieu que la toute première fois, alors que Moshe n'avait pas encore pénétré à l'intérieur du Mishkan. Il s'était tenu modestement à l'extérieur jusqu'au moment où Hachem l'a invité à entrer. Cette retenue de la part de Moshe contient une leçon de tact, et les Chachamim du Midrash en tirent la conclusion que une charogne est encore préférable à un érudit s'il est dépourvu de savoir-vivre. Entrer sans compter invité à entrer, c'est un manque de savoir-vivre, et donc même si quelqu'un est un grand savant, toute sa science elle vaut pas grand-chose s'il n'a pas de savoir-vivre. Donc Rashi, c'est l'autre version selon laquelle toutes les paroles, toutes les harangues et tous les ordres furent précédés d'un appel. Donc ça marque l'affection et l'estime de cette conception flatteuse pour Moshe, que Rashi s'arrête dans l'interprétation des premières paroles de Sefer Vaikra. En fait, il n'y a que trois endroits où effectivement dans la Torah l'appel est relayé et parlé. C'est, à chaque fois, c'est l'invitation à accomplir un acte de portée historique. En fait. La première fois, c'est au buisson ardent. Quand Moshe Rabbeinu a vu le buisson qui brûlait et Hachem l'a appelé, il lui a dit, viens, approche-toi et regarde. Et Moshe a refusé de regarder. Il a caché son visage. Par la suite, ça va lui être reproché parce qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu va demander à Hachem, Areinina et Kvodecha, montre-moi ta gloire. Et Hachem va lui dire, quand je voulais, tu voulais pas. Maintenant que toi tu veux, c'est moi qui veux. C'est étrange comme raisonnement, mais enfin, c'est comme ça. Donc la première fois, c'est au buisson ardent. La seconde, c'est au Sinaï, avant Hachem l'a dit bon, de venir. Et la troisième fois, ben, c'est ici. Avant tous les ordres relatifs aux corbanotes, qui veut dire que l'appel solennel à Moshe, en tête du Sefer Vaikra, qui c'est le Sefer du milieu. D'accord, il y a deux Sefarim, Bereshit Shemot au début, il y a Vaikra au milieu, puis derrière il y a Bamidbar et Dvarim. Donc c'est le cœur de Chamisha Chumshei Torah. Il dit, c'est fait pour nous faire conscience que la partie la plus noble de la tâche de Moshe ne fait que commencer. Tout ce qui précède n'était que le prélude à la réalisation de la mission messianique d'Israël. À présent, les bases nationales et matérielles sont jetées, et Moshe est appelé à se consacrer désormais à sa nouvelle mission, former la nation à sa vocation idéale, faire des enfants d'Israël, grâce aux lois de la sainteté, un peuple de prêtres et une nation sainte, comme on dit, l'œuvre d'éducation morale, spirituelle et religieuse qui marquera les enfants d'Israël de son empreinte jusqu'à la fin des temps, débute avec le nouvel appel adressé par Hachem à Moshe. Ça ressemble, je sais pas, il le cite pas, mais on dirait Hirsch. Quoi. Ça ressemble à l'enseignement de Rabbi Shimon Raphaël Hirsch. Sur le petit Aleph, le Zohar, lui, il n'est pas aussi optimiste que Rashi. Il dit que c'est l'indice d'une certaine restriction afférente à l'appel divin. Les deux premiers appels, donc l'appel du site du buisson et l'appel au Sinaï, bon, ça c'est écrit, Vaikra avec un Aleph complet, il n'y a pas ce petit Aleph. Bon, mais il disait clairement que l'appel venait d'Hachem, ce qui n'est pas le cas ici dans notre verset. Parce que le problème, c'est, vous avez bien remarqué, il y a un problème avec ce verset. D'accord ? C'est qu'il n'y a pas de sujet. Vaïkra el Moshe. Il a appelé Moshe. Qui c'est qu'il a appelé ? Pas de sujet. Donc, le Zohar dit, on peut dire que l'appel au buisson ardent et celui du Sinaï venait de la royauté divine, en fait. Et l'appel ici, qui est un appel après le Vaudor, il est appelé du Oel Moed. Certains disent qu'effectivement, le Vaïkra met Oel Moed. L'appel émane du Oel Moed, comme si l'appel ne venait pas d'Hachem, mais du Oel Moed. Comme si c'était la tente d'assignation, c'était le Mishkan qui appelait Moshe, et pas Hachem. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Hachem, en fait, dans cette phrase. Dans cette morceau de phrase, Vaïkra el Moshe, c'est pas marqué Vaïkra Hachem el Moshe? C'est plus aussi majestueux que les deux appels précédents. Alors, Vaïdaber Hachem El Moshe, Hachem a parlé à Moshe. Vous remarquerez que il lui parle Vaïdaber, c'est dur, oui, c'est pas Vaïomer. C'est pas la forme douce de la parole. Hachem parle à Moshe, mais Oel Moed, c'est-à-dire l'appel vient du Oel Moed, les morts, normalement, c'est pour qu'il le répercute. Pour que Moshe répercute ce qu'il va lui dire, là. Alors regardez, là, il y a que Drachi a travaillé. Vaïkra el Moshe. Je reviens dans Rachi, ouais. Vous regardez Rachi en même temps que moi. Akol olech umagia le oznav. La voix vient, elle arrive jusqu'à l'oreille de Moshe. Vechol Israël lo shomin. Et tous les autres Bnei Israël qui sont à côté de Moshe, ils n'entendent rien. Lui, il entend, mais eux, ils n'entendent rien. Yachol, af, l'afsakot aïta kriya, on pourrait penser que même chaque fois que Hachem s'interrompt, il y a de nouveau un appel quand il reprend la parole. Talmud Lomar, Vaidaber, le Dibour, Haïta Kriya, Velo l'Afsakot. Pour un Dibour, il y a un appel. Il y a un appel quand il va lui parler, mais pas quand il va s'arrêter. Ma ve Afsakot, Meshamshot, Iten Revach le Moshe, le Itbonen, Ben Parasha, le Parasha, Chen Inyan, le Inyan, Kalva Chomer, les idiot alomed min ha idiot. Bon. Alors, à quoi servent les interruptions de Hachem s'arrête de parler? C'est pour donner à Moshe le temps de réfléchir. Et c'est une leçon que le maître doit toujours, quand il enseigne, il doit s'arrêter de temps en temps pour laisser les élèves, laisser aux élèves le temps de réfléchir. Vaidaber Elav. Il lui a parlé, Hachem lui a parlé à lui. Parce qu'on lui dit le maït à lui. Alors Rashi dit le maït est à Aaron. C'est pour exclure Aaron. Hachem n'a pas parlé à Aaron. Il parle qu'à Moshe. Donc il y a un maître qui dit Omer. Donc 13 dibrot nemru batora. Le Moshe ou le Aaron. Il y a 13 fois où Hachem s'est adressé à Moshe et à Aaron en même temps. Uknegdan, Nemru, Yudgimel, Miyutin. Et il y a 13 endroits où il y a un mot qui, le mot Elav ou un autre mot pour dire que c'était seulement à Moshe. Shelo le Aaron, Nemru. Et là, le Moshe, Shiomar le Aaron, c'est Moshe qui ensuite va devoir lui le dire à Aaron. C'est pas qu'on veut pas qu'Aaron le sache, mais ça doit venir de Moshe et pas d'Hachem. Donc Rashi fait la liste, je la saute, la liste des endroits où il a parlé aux deux, etc. Et ensuite, Rashi explique Meoel Moed. Melamed Shaya Akol Nifsak. Velo Aya Yotse Chutz Leoel. Ça vient dire Meoel Moed, ça veut dire, curieusement, la Drasha, elle est que la voix, elle ne sortait pas du Oel Moed. C'est un peu compliqué. Si lui, il n'est pas dans l'Oel Moed, comment il entend si la voix, elle ne sort pas? C'est-à-dire, ce qu'il va lui dire, il lui dit, viens, approche-toi, entre dans le Ohel. À ce moment-là, quand il lui parle, lui, il l'entend, parce qu'il est dedans. Et la voix, qui est une voix de tonnerre, on n'entend rien à l'extérieur. Yachol mipnei she'akol namour. Est-ce que c'est parce qu'Hachem lui chuchotait à l'aide? Tamud lomar et akol. Mahu akol, ou akol, amit paresh be'teilim. Qu'est-ce que c'est le kol? C'est le kol dont on parle dans les Tehillim, on dit Kol Hashem Bekoach, la voix d'Hashem est en force, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shover Arazim, c'est une voix qui brise les cèdres. Imken Lamanemar Meoel Moed, donc pourquoi nous dire que ça vient du Meoel Moed? Melamed Shaya Akol Nifsak, Kayot Sebo Ve'akol Kanfei, Ve'kol Kanfei Akruvim, Nishma Ad Chatzer Achitzona, יכול מפני שהכל נמוך, תלמוד לומר ככל כל שקי בדברו, אם כן, למה נאמר עד החצר החיצונה? מכיוון שהגיע שם, היה נפסק. אני אדון לנו אותך אקזמפל, דוסקו לבוא אלה תחת רפיסות, אל שרת ברוסקמו, אין סרטן לא בוא, איסי אל שרת, על הסורתי דו יואל מועד. מקור אינפוע, מאו אל מועד למור, יכול מכל הבית, Talmud Lomar, mais à la Kaporet. On pourrait penser que la voix, elle vient du Ohel Moed, elle vient de toute la tente d'assignation, de tout le Mishkan. Talmud Lomar, on sait très bien qu'Hachem ne parlait à Moshe que entre les Kruvim. Il y avait sur le Aaron, il y avait le Kaporet, Il y avait les deux chérubins, et la voix divine, elle venait de Moshe recevait une voix qui émanait d'entre les deux chérubins. Pas du tout de... C'est pas que ça venait de tout. Cette voix-là, elle venait d'entre les deux chérubins. Les morts, Tsevé Morlaem, sort et va leur dire, Divrei Kvushim, Bishvilchem, Hu Nedaber Imi, Sheken Mansinu, Shekol Lametret Shana, Shayu Israel Bamidbar, Kemenudim, Minam Raglim, Veelach, Lonityached Adiburim Moshe, Shenemar, Vaik Asher Tamu Kolan Shea Malkoach, כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי, לאמור, אליי היה הדיבור, דבר אחר, צא ואמור להם דבריי, וישיבו אם יקבלום, כמו שנאמר, וישב משה את דברי העם. Donc il y a deux explications. Une explication qui est que va leur dire ce que je te dis, mais dis-leur auparavant qu'en réalité, tout ce que toi tu reçois, c'est grâce à eux. Dis-leur bien clairement que la prophétie que tu reçois, toi Moshe, c'est pour les Bnei Israël. Et la preuve, c'est que pendant les 38 ans, durant lesquels les adultes sont morts à la suite de l'histoire des Meraglim, des explorateurs, Moshe Rabbeinu n'a pas eu de prophétie d'Hachem. D'accord? Pendant 38 ans, Hachem n'a pas parlé à Moshe. Pendant tout le temps dans le désert où les gens mouraient, puisque les Bnei Israël ne méritaient pas de recevoir la parole divine, alors Moshe n'a pas reçu de parole divine. Il n'y a pas de parole qui s'adresse à Moshe, si ce n'est pour qu'il la répercute au Bnei Israël. Alors dis-leur ça. Et une autre explication qui dit que va leur dire et rapporte-moi leur accord. Est-ce qu'ils sont d'accord d'entendre tout ce que je vais leur dire? Donc il y a deux. Ou bien on leur dit c'est grâce à vous que je reçois, ou bien va leur demander s'ils veulent bien recevoir. Comme si Hachem demandait: bon, je voudrais bien vous parler, maintenant est-ce que vous êtes vraiment prêt à m'écouter? Alors il le ramène et il dit souvent le mot les morts implique communiquer aux générations futures. La Torah insiste ici particulièrement sur le devoir de répéter au Bnei Israël les lois des sacrifices avec la plus grande clarté. En fait, l'étude des lois sacrificielles s'est étendue aux générations futures, bien au-delà de l'époque relativement courte où ces lois purent être appliquées. Donc c'est intéressant à quoi elles servent, toute cette partie du Sefer Vayikra qui parle de lois qu'on ne pourra jamais appliquer. On n'a pas pu les appliquer, ça fait 2000 ans qu'on ne les applique pas, puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash. Et donc, il y a une obligation à en faire le sujet de nos préoccupations dans le domaine de la pensée. Ça ne s'est jamais arrêté. Tous les temps, tous les membres mâles de la nation, jeunes et adultes, l'étude du culte des sacrifices constitue un devoir religieux. Bien plus, nos sages recommandent de commencer les études scolaires des enfants par les chapitres du Lévitique contenant les sacrifices. En exposant avec tant de détails des lois qui n'ont connu qu'une réalisation temporaire et qui, d'une certaine manière, ça n'intéresse personne. Je veux dire, quand le Mashiach viendra et si on rétablit les choses, ben, il nous dira ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de... D'accord? Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Si c'est... Quand ils l'ont vécu, ben, ils savaient comment il fallait faire. Et la Torah, qui est pour l'éternité, elle poursuit un but déterminé. Susciter leur étude approfondie afin que l'esprit de pureté et de sainteté qui s'en dégage pénètre profondément dans toutes les couches de la nation. Dans une certaine mesure, l'étude se substitue à l'acte. comme Rav Yitzhak le faisait remarquer dans la Gemara dans Menachot, elle sensibilise l'âme contre les atteintes du péché, elle élève la pensée et le cœur au niveau des sphères, donc des sphirotes, où règne la plus entière pureté morale et spirituelle. Bien. Alors, curieusement, le verset qui suit, on aura quand même deux versets, c'est pas mal. D'aber el bnei Israël ve amarta alehem, parle au bnei Israël et tu leur diras, Adam ki yakriv mikem korban l'Hashem, un homme, vous voyez, c'est pas marqué ish comme d'habitude, c'est marqué Adam. Adam, c'est, semble-t-il, plus général que Ish. Adam, ça veut dire un goy aussi. Oui, ça inclut les goyim aussi. Qui yakriv mikem korban, qui approchera d'entre vous un korban. Le mot mikem, il semble pas être à sa place ici. D'accord? A priori, on aurait dû dire Adam mikem qui yakriv. Un homme parmi vous qui va approcher. Et pas un homme qui approchera parmi vous. Korban l'Hachem, un korban pour Hachem, mina behema, mina bakar, mina tson, d'un animal domestique, si vous voulez, behema, que ce soit du gros ou du petit bétail, takrivu et korban chem, c'est avec ce gros ou ce petit bétail que vous approcherez vos korbanotes. Alors, Adam. Adam qui yakriv mikem, Rashi. Keshe yakriv bekorbanot nedava libera inyan. Adam qui yakriv, c'est un homme quand il approchera. C'est-à-dire, on ne parle pas ici des obligations, on parle de qu'est-ce qui va. On verra après quand il y a des obligations. Quand quelqu'un approche, que ce soit un cadeau, c'est-à-dire que ce soit sa propre initiative, ou que ce soit la Torah qui l'y contraint, Adam, la tête, l'âme Neymar, pourquoi c'est marqué Adam? Parce que, ma Adam Arishon lo écrive mina gezel, shakol ayashelo, afatem lo takrivu mina gezel. Pourquoi on dit Adam? On dit Adam pour faire référence à Adam Arishon. Et pourquoi il faut faire référence à Adam Arishon? Parce que Adam Arishon, quand il a apporté un korban, et le korban qu'il a apporté, c'était certain que ça lui appartenait, puisque tout lui appartenait, le monde entier lui appartenait. Donc ça vient dire ici, vous n'approchez pas des korbanotes, n'approchez pas comme korban des bêtes que vous auriez volées. Un verset pour dire qu'il ne faut pas approcher les choses volées. Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait apporter quelque chose de volé? Parce que j'apporte à Hachem. Par rapport à Hachem, il n'y a pas de différence que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre. Donc on pourrait penser. Que c'est quoi? Il se trouve que c'est à l'autre, mais par rapport à Hachem, ça ne fait pas de différence. À la limite, que ce soit moi qui apporte ou un autre, par conséquent, on pourrait se dire, c'est pas important, c'est par rapport qu'on donne à Hachem, à la limite, même si c'est volé, ok, je lui rendrai, je prends pour Hachem, c'est bien. Après, j'aurai un problème, je lui ai pris sa bête, ok, je vais la lui payer, ou je vais la rembourser, mais bon, je peux le prendre. Je le prends puisque c'est pour Hachem. Pas de différence. Par rapport à Hachem, il n'y aurait peut-être pas de différence. Je pourrais penser que, ok, je prends, même, c'est du vol, mais je n'ai pas du tout l'intention de ne pas le rembourser, je vais le rembourser. Mais ça aussi, c'est interdit. Ça, c'est ça, parce que s'il n'avait pas l'intention de le rembourser, bon, tu vas le voler à l'autre. Évidemment, je n'ai pas besoin d'un verset pour savoir que c'est interdit. Mais là, on pourrait penser que puisque je vais lui échanger, je n'ai pas de bête ici, je suis à Yerushalayim, moi j'habite dans le Galilée. Je suis à Yerushalayim. L'autre, il est bien avec son troupeau. Je prends un agneau et j'amène l'agneau au Beth Amikdash et voilà, j'en fais un corban. Alors c'est vrai que c'est du vol, mais je vais lui rembourser ou je vais. D'accord ? On pourrait penser que par rapport à Hachem, finalement, tout lui appartient. Donc, il n'y a pas la dimension du vol comme si on donnait à quelqu'un d'autre. Autrement, on ne comprend pas pourquoi j'ai besoin d'un verset pour me dire que je ne peux pas approcher quelque chose qui n'est pas à moi. Évidemment que je ne peux pas.